RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 16h06, l'intégral tour c'est jusqu'à 21h. On revit la première partie du Tour de France pendant que les coureurs profitent de leur premier jour de repos. Chris Froome a pris le maillot jaune au cours de cette première semaine. Est-ce que ça veut dire que le Britannique a déjà gagné le Tour? Je sens que ça va bien diviser nos membres de la Dream Team tout ça.
RMC Intégral Tour.
Il y en a certains qui se sont fait quelques frayeurs.
Oui,
en fait,
ça commence à frotter. On est à 57 km de l'arrivée, c'est-à-dire à 11 km d'une sacrée succession de secteurs pavés. Il reste plus de 11 km pavés avant l'arrivée à Cambrai et les équipes de leaders sont en train de se positionner à vitesse grand V à l'avant du peloton. À droite, les Katiushas de Joaquin Rodriguez et d'Alexander Kristoff. Il n'apparaît pas dans vos pronostics, me semble-t-il, celui-là, le Norvégien. Il y a là les Sky du maillot jaune Christopher Froome ainsi que les Tinkoff Saxo d'Alberto Contador et Peter Kenhoff, le champion de Grande-Bretagne, coéquipier de Christopher Froome, vient de passer tout près de la correctionnelle en contournant un îlot directionnel. Ce n'est peut-être pas sur les pavés que la course sera la plus dangereuse, mais dans l'approche, on est à 10 km du prochain secteur. Lars Boom est en train de faire exploser le peloton avec Vincenzo Nibali dans sa roue. Derrière, il y a Cassure, Sepp Van Mark, le belge de l'équipe hollandaise. L'Auto Jumbo va faire la jonction, mais que c'est dur derrière.
Oui, c'est Barguil derrière qui essaye de rentrer.
Warren Barguil, le grimpeur breton de l'équipe Giant, qui est en train d'avoir Christopher Froome dans sa roue, en train d'essayer d'opérer la jonction dans un secteur pavé particulièrement vallonné. Nibali en tête du quatuor de tête pour l'instant. Nibali qui relaie Lars Boom avec un coureur de l'équipe. Etix Quick-Step dans sa route.
Et Chris Froome qui tente de revenir.
Il se bat
Froome pour rester au contact.
Ah, ça y est, la jonction est effectuée. Un peloton en file indienne emmené par Nibali, vainqueur sortant du Tour de France, qui a évidemment des choses à rattraper, des secondes à rattraper. Mais Chris Froome a montré qu'il était bien l'homme fort de ce début de Tour de France en revenant.
Oui, mais il est juste.
Il y a encore des secteurs pavés, Christophe.
Oui, tout à fait.
Dans quelques kilomètres.
On est dans l'avant-dernier secteur pavé du jour et ils sont encore une soixantaine dans ce groupe des favoris. Thibaut Pinot est toujours là, il navigue dans les dernières positions. Il n'est pas sur son terrain de prédilection, au contraire des solides gabarits de BMC qu'il s'appelle Danielos ou Manuel Pizzato. Attention,
Thibaut Pinot
toujours en dernière position de ce groupe des favoris. Il y a eu un problème de dérailleur, semble-t-il, il repart, il va recoller à l'arrière si tout va bien. Il a les mains en haut du guidon, il regarde tout de même son plateau, son dérailleur, il est en train de décrocher. Thibaut Pinot qui a des problèmes,
un problème
mécanique. Il lève la main droite, il appelle sa voiture. Thibaut Pinot, il est peut-être en train de perdre une place dans le top 10 du Tour de France sur les Champs-Élysées.
Voilà Thibaut Pinot, la tête des mauvais jours. On l'a vu très très énervé, piégé dans un secteur pavé sans être dépanné. Et un de vos mécanos qui arrive avec deux roues alors que c'est pas un problème de roue. Il y a de quoi devenir fou hein, dans ces cas-là. Hein.
Ah oui, non, mais c'est complètement fou. Et puis d'autant plus que c'est pas le jour où il fallait que ça arrive, surtout sur cette étape de pavé où les voitures n'ont pas le temps de remonter, c'est très étroit, ses équipiers étaient complètement éparpillés aussi. Ah, il attaque
Tony Martin. Tony Martin qui veut chercher le maillot jaune, évidemment. Il n'est qu'à 6 centièmes derrière Chris Froome. Est-ce que Chris Froome n'a pas intérêt à le laisser partir?
Il va pas rouler dessus.
Non,
c'est un peu tôt quand même pour Tony Martin.
Ah, mais c'est un formidable rouleur.
Il y a le dernier kilomètre,
on a la réponse. 3 km de l'arrivée, attaque de Tony Martin qui pointe à une seconde au classement général de Christopher Froome. C'est bien Geraint Thomas, coéquipier de Christopher Froome, avec le maillot jaune dans sa roue qui roule. Il roule Geraint Thomas, mais c'est davantage pour protéger Christopher Froome et le maintenir dans les premières positions. Il n'a pas pris en chasse Tony Martin. Qu'est-ce que ce sera dur de revenir sur cette machine à rouler.
Non, ça va revenir. Vous avez les Giants qui ont mis en route, vous allez avoir les Cofidis qui vont mettre en route.
Tony Martin, excellent rouleur qui a manqué le coach à deux reprises pour endosser le maillot jaune. Lui, le champion allemand qui n'a jamais été leader du Tour de France. Il en rêvait lors du contre-la-montre inaugural d'Utrecht qui reste 2,5 km à parcourir. Tony Martin s'est mis en position de contre-la-montre, les coudes sur le sein. Tony Martin qui peut se retourner, il a gagné semble-t-il. C'est impossible de revenir sur un tel rouleur dans un final quand on n'est pas organisé mieux que cela. Il est désormais à 200 mètres de la ligne d'arrivée et l'Allemand de l'équipe Etik Quickstep qui se retourne à 150 mètres de la ligne maintenant derrière Edvald Boasson-Hagen, le champion d'Autriche, emmène Jan Degenkolb, mais Tony Martin fait coup double ici à Cambrai dans 25 mètres maintenant, il lève sa main droite, il a gagné ici à Cambrai pour 3 petites secondes devant Jan Degenkolb, devant Greg Van Avermaet, devant Peter Sagan et Edvald Boasson-Hagen. Parfait coup tactique.
Bravo.
Et physique.
Bravo.
Quel sens de la course.
RMC Intégral Tour.
Alors messieurs, quatrième étape, l'étape des pavés. C'était une nouvelle fois une étape redouté et très attendu par les suiveurs, redouté par les coureurs au lendemain de cette arrivée au sommet du mur d'Huit et cette gamelle qui avait mis beaucoup de coureurs à terre et contraint certains à l'abandon. Les pavés, on les craignait évidemment, et bien finalement ils n'ont pas donné grand chose. On peut dire que les pavés ont accouché d'une souris. On en reparlera tout à l'heure en parlant des favoris peut-être, mais il y en a un qui a bien su tirer son épingle du jeu, c'est évidemment Tony Martin, à la fois vainqueur de l'étape et qui en plus enfin réussit à décrocher ce maillot jaune, Cyril, mais il est allé le chercher, vraiment beaucoup tactique de Tony Martin et surtout une puissance incroyable dans les jambes, c'est un formidable rouleur, il l'a montré aujourd'hui hein.
Oui, mais c'est vraiment une très belle souris.
Oui,
c'est vraiment une très belle souris. Oui, en plus, il n'a pas été verni par la chance, puisqu'il est obligé de faire un transfert de vélo, parce qu'il a eu un problème avec un de ses équipiers. C'est-à-dire qu'il n'a même pas franchi la ligne avec son vélo, mais avec vélo d'un équipier. Oui. D'ailleurs,
comme
on
quoi,
l'a vu à un moment, il avait toute l'équipe.
On peut changer de vélo,
l'équipe.
On peut récupérer le vélo d'un équipier.
Oui, il faut qu'il y ait les mêmes cotes, quoi.
À peu près les mêmes
hauteur
codes,
de selle à quelques millimètres près. Si vous avez 3 cm d'écart, c'est un petit peu plus compliqué. Mais finalement, il va peut-être garder le vélo de Trentin, son équipier. Peut-être qu'il va garder ce vélo-là, hein, finalement. Mais pour revenir à ce nouveau maillot jaune, qu'aurait pu l'être d'ailleurs déjà hier, qu'aurait pu l'être d'ailleurs avant-hier, rappelez-vous.
Et même à Utrecht aussi. Hein,
et éventuellement à Utrecht.
Parce qu'il est battu par...
Oui, mais enfin bon, là, il est battu par... il n'y a rien à dire. Mais hier, dans la montée, il perd le maillot pour 6 centièmes. Alors, pour 6 centièmes, je vais vous expliquer. Vous avez Rodriguez qui passe la ligne. Et 96 centièmes après, 94 centièmes après, passe Froome. Donc comme il n'y a pas la seconde complète, il est classé dans le temps de Rodriguez.
S'il y avait 4 centièmes près, paf, il perdait la seconde.
Ce qui doit représenter à peu près, comme il passe la ligne d'arrivée à 10-12 à l'heure en haut du mur de Huit, donc ça doit représenter une demi-roue, quoi. Donc si Rodriguez ne se relève pas ou lève pas les bras même et qu'il reste sur son rythme normal, Froome se retrouvait à une seconde.
Et donc Tony Martin aurait pris le maillot.
Et donc Tony Martin se retrouvait avec le maillot.
Et ben il se rattrape 24 ans plus tard.
Et puis là, il les a mis à deux secondes, il n'y a pas de discussion.
C'est bien payé. Alors, on va écouter tout de suite Tony Martin tout à l'heure à l'issue de cette quatrième étape et donc de ce coup double réalisé par le coureur allemand. On l'écoute.
Je n'ai pas eu de chance les deux derniers jours, j'étais très triste. Aujourd'hui, j'ai roulé pour avoir le maillot jaune, c'est une histoire que je n'attendais plus. J'ai eu de nouveau de la malchance sur la route, puisque j'ai dû changer de vélo dans le final. Il n'y avait pas de voiture d'assistance derrière moi. J'ai dû changer de vélo avec Trentin. Depuis le mois de novembre et la coupure de cet hiver, je pensais au prologue. J'étais tellement déçu de rater le jeune à ce moment-là. Mais aujourd'hui, la roue a tourné.
Voilà, Tony Martin en jaune pour peut-être plusieurs jours, hein, peut-être jusqu'au contre-la-montre par équipe, même s'il y aura aussi le mur de Bretagne en fin de semaine. Alors, on va aujourd'hui, vous savez que c'est le jour du bac, le jour de récompense. Certains ont eu le bac avec mention, d'autres ne l'ont pas eu. On va voir un peu le baromètre des fantastiques et attribuer les mentions à l'issue de cette première partie de Tour de France qui était redoutée par les coureurs, qui s'achève ce soir. Certes, il y aura encore de belles étapes avant l'arrivée en montagne, mais en tous les cas, les moments les plus durs sont passés. Baromètre des fantastiques, Cyril, on va peut-être attribuer la mention très bien à Chris Froome, qu'on n'attendait pas forcément aussi à l'aise sur les pavés. Il a montré qu'il était vraiment le patron du Tour. Aujourd'hui, bac avec mention très bien pour Chris Froome. Hein.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bac avec mention très bien. Et puis j'ai l'impression que depuis hier, depuis le final de l'étape d'hier et encore plus aujourd'hui en fonction de son comportement sur l'ensemble de cette étape, il est tout simplement en train de se positionner comme le boss de la course, parce que comme le disait Lucho tout à l'heure, quand Tony Martin s'en va
il va pas se battre pour aller chercher le maillot. Il dit, attends, il y a des équipes de sprinters, si vous voulez les gagner, c'est à vous, c'est pas à moi. Parce que s'ils réagissent tout de suite... Bon, et puis les équipes de sprinters disent maintenant il a pas envie de laisser perdre son maillot jaune, il a envie de le garder. Eh ben non. Eh ben vous l'avez, hein, comme dirait l'autre, dans le baba. Et donc ils se sont mis à rouler, les Giants sont mis à rouler après, mais quand l'autre il est lancé, c'est pas possible d'y aller. Donc il a le comportement du boss, c'est-à-dire que à un moment c'est lui-même qui, aujourd'hui, et ça a été le cas, a décidé qu'il allait prendre le maillot.
Mention très bien pour vous, messieurs, vous êtes d'accord avec ça?
Il a fait un sans faute, Froome, hein, aujourd'hui, il n'y a pas de problème au niveau du placement.
Et en plus, il a de la chance. Parce qu'il a failli passer par terre. Donc, autant l'année dernière, il ne bénéficiait pas de ce paramètre chance ouais. que là, franchement, c'est l'homme le plus fort des quatre.
La chance, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il marche et qu'il est dans une dynamique positive.
Oui, d'accord, mais bon, tu sais, il a eu beau marcher, le coup des poules qu'il a pris, il aurait pu... Il prenait le trottoir, c'était pareil.
Thierry, l'an dernier, il aurait... s'il avait été dans la condition de l'an dernier, le trottoir, il prenait.
Oui, parce que c'est...
Parce qu'il aurait été plus à la rupture, moins lucide. Ouais. Alors, sur la fin de course, quand il laisse partir Tony Martin, je crois qu'il faut dire aussi une chose, c'est que maintenant, il va être tranquille jusqu'au contre-la-montre par équipe. Parce que l'équipe Quick-Step va faire quoi? Elle va le défendre, ce maillot.
Ah bah oui, plus
non seulement
jamais,
elle va le défendre pour Tony Martin, mais en plus, ça va permettre d'une arrivée au sprint demain. Et le CAV, il va quand même pas faire le tour sans aller en chercher une. Et demain, et après-demain, et à Fougères. Attendez, là, c'est tout bénéfice.
On changera pas de maillot jaune demain soir. C'est une quasi-certitude, à moins qu'un coup parte de très loin.
Eux qui gèrent le coup.
Ils veulent garder le maillot, donc le coup, donc, ils laisseront partir trois gars au départ, puis ils iront les chercher. Là, c'est plus la souris, ce seront les échappés, et ils viendront avec la patte du gros chat.
On va écouter tout de suite Nicolas Portal, le directeur sportif de la formation Sky, évoquer Chris Froome et sa performance du jour. Lui qu'on imagine tout gringalé, pas beaucoup de muscles sur les os. Mais oui, mais regardez ce qu'il a fait aujourd'hui, Nicolas Portal.
Peut-être qu'aujourd'hui, les gens vont se rendre compte que c'est pas le Christopher Froome, comme je disais avant. Les frêles et fragiles qu'on pouvait s'imaginer dans le passé, même si nous on disait que dans les pavés il était pas mauvais. Voilà, là il a juste prouvé qu'il avait pas peur des pavés. Et puis vous avez vu, il a pris les devants, il remontait, il frottait. Après, je pense qu'il est aussi en mode vraiment, il est là pour gagner le tour. Quoi. Ça peut être un gentleman, mais c'est aussi un vainqueur, un gagneur.
Un gagneur, un fauve, comme dirait Christian Prudhomme lorsqu'il évoquait les coureurs du tour.
Sur ce que j'ai vu hier. Dans l'avant-dernière ascension avant le mur de Huy, c'est pas un gentil non plus.
C'est pas un genre. Il faut pas être gentil pour être un grand champion, hein. Donc on peut être gentil comme ça, faire semblant, être bien élevé, et puis sur le vélo, être un tueur. Tiens, Anthony est de retour avec nous au 32-16. Il nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Salut, Anthony.
Bonjour à tous.
Bon,
bonjour,
Anthony. Tu vois Froome en jaune, toi, dans deux semaines et demie sur les Champs-Élysées, hein.
Ouais, parce que je pense que l'étape qui pouvait le perturber, c'était celle d'aujourd'hui. Et il a réussi, il a montré que même qu'il était au-dessus des autres. Et Contador me paraît en dessous, et c'est celui qui est le plus proche au général. Et Quintana a quand même 2 minutes, je crois, de retard. Donc dans les montagnes, c'est quand même beaucoup. Et je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce qui pouvait perturber Froome et qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de gagner le tour, quoi.
Ouais. Ah, bonne question. Qu'est-ce qui peut empêcher Froome de gagner le tour? À part la malchance, parce qu'elle est toujours présente, hein, même si là, il a...
Enfin, le sort, plus que la malchance.
Oui,
La malchance,
t'aimes pas la malchance, toi.
J'y crois pas beaucoup, la malchance.
Alors, qu'est-ce qui peut empêcher Froome jamais gagné le tour?
Bah, il peut avoir une panne de cuisse.
Ça arrive. La route est longue, hein.
Même
la
si elles sont... Mais bon, c'est vrai que tout peut se produire. On verra aussi dans le contre-la-montre par équipe le comportement de son équipe par rapport effectivement à Astana, mais qui me paraît pas aujourd'hui, qui me paraît pas extraordinaire. Et puis l'équipe de Quintana. La référence, c'est la grande étape de bordure où on a vu l'équipe Astana et l'équipe Movistar être un petit peu empruntées sur ces routes venteuses. Mais dans le contre-la-montre par équipe, il n'y aura peut-être pas de vent. Et s'il y a du vent, il sera plutôt favorable.
Lucho, les jeux sont faits. Pour toi, Froome va gagner le tour?
Non. On est le quatrième jour. Il faut pas exagérer non plus. Contador, il est en embuscade derrière. Quintana, il était quand même dans le groupe devant avec Contador et Froome. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que Quintana est quand même en condition aujourd'hui et qu'il progresse peut-être de jour en jour. Et le fait d'être placé dans le premier groupe devant, c'est quand même un indicateur.
D'accord. Donc pour toi, Chris Froome n'est pas encore en jaune à Paris. Thierry, pareil, même.
Oui,
même
pareil, analyse. Ouais, on va pas,
Contador
on va pas
peut encore se refaire la cerise.
C'est vrai qu'il a marqué des points, qu'il marque des points depuis
tous
le
les
début.
Jours, hein.
Depuis le début du tour, hein, à chaque fois, et on le sent. Pour moi, Contador, il grimace tous les jours, mais bon, il est toujours là, mais on sent qu'il
est
là pour suivre. Il est là pour suivre et pas plus pour l'instant.
Ouais.
Je dis bien.
Mais ça peut changer,
après,
évidemment.
Ça peut changer. Il y a encore une petite semaine avant d'arriver au pied. Hein.
La forme n'est pas linéaire sur trois semaines. Il peut y avoir. Enfin, oui. Si avant c'était comme ça sur le Tour de France pendant des années.
Ah oui, non, mais là, vous voulez parler des moteurs physiologiques humains. Au pastis Orja, c'est ça.
Ouais, turbo, on appelle ça.
Mais désormais, il peut y avoir des contre-performances. Personne n'est à l'abri des contre-performances. On va remercier Anthony, notre jeune auditeur qui nous appelait des Pyrénées-Atlantiques. Merci Anthony.
Mais merci à vous et continuez comme ça. Je vous écoute tous les soirs et j'apprécie.
Eh ben merci. Merci beaucoup Anthony. Ça fait plaisir. Anthony.
RMC Intégral Tour.
Et nos Français dans tout ça, Thibaut Pinot avait commencé le tour comme une fusée sur le contre-la-montre. Après, il a coincé. Et notre sprinter, Nasser Bouani, a dû abandonner. On va en parler dans un instant.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 16h25 et l'Intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC, même pendant les jours de repos. Pendant que les coureurs font une pause à Pau, on revit les premiers jours de course, un film d'action, un film avec des cascades aussi. Nasser Bouani a dû abandonner après une chute, la chute de trop. Les membres de la Dream Team RMC Sport partent au sprint.
RMC Intégral Tour.
Les chutes se multiplient. Principale victime de la journée, Nasser Bouani, victime d'une chute au 15e kilomètre et qui, écoutez bien, a été contraint à l'abandon. Nasser Bouani qui avait déjà chuté à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée sur les récents championnats de France il y a à peine 10 jours. Nasser Bouani qui était en souffrance, qui commençait à se remettre physiquement. On l'avait vu hier passer les pavés dans le groupe des premiers, faire son premier top sur ce Tour 2015, et bien la patatras, il est tombé en compagnie de trois autres coureurs de l'équipe Cofidis.
Ah, oh là là, grosse chute à l'arrière du peloton, Georges.
Oui, grosse chute à l'arrière du peloton, sous le panneau des 25 derniers kilomètres. Il y a les coureurs de la FDJ qui sont par terre, ça court dans tous les sens. J'ai vu Thibaut Pinot dans les dernières positions. Sébastien Chavanel est par terre. Thibaut Pinot, pour l'instant, je ne le vois pas. Je vois plusieurs coureurs de la FDJ qui sont au sol. Il y a au moins une vingtaine de coureurs qui ont été impliqués. Il y a Benoît Vegrenard qui est au sol, encore des coureurs de l'équipe Cofidis. Là, c'est un peu l'anarchie autour de nous. Il y a les mécaniciens qui courent avec les roues, des coureurs de la formation Katsusha qui sont au sol. Il y a plusieurs coureurs de la FDJ là qui sont en train de se relever. Sébastien Chavanel qui se relève, Mathieu Ladanius également, Jérémy Roy également. Il me semble que Thibaut Pinot n'est pas impliqué dans cette chute.
Thibaut Pinot pris dans la chute.
Thibaut Pinot, je le vois devant moi. Sébastien Chavanel qui s'en inquiète. Il se tenait l'épaule gauche, Thibaut Pinot.
Oh là là,
c'est l'anarchie là devant nous. C'est vraiment sous la banderole des 25 km. Il y a des coureurs de l'équipe Katsusha également qui sont là. Donc là vraiment c'est une énorme chute à l'arrière qui s'est produite, à l'arrière du ponton, dans les dernières positions.
Est-ce qu'on a une idée de la vitesse à laquelle ça s'est produit? Ça allait moins vite quand même que l'autre jour.
Ça allait doucement.
Ouais.
On regardait avec Marco, on était à 40 km/h, hein, pas beaucoup plus. On s'inquiétait justement. Enfin, on se posait la question de la vitesse à laquelle on allait, alors que. On voit des coureurs de la formation Giant Alpecin qui sont également en train de se lever. On est dans une ville, hein, là actuellement. Je vois Julien Pinot qui est à côté de Sébastien Chavanel.
Thibaut Pinot semble avoir repris la route, me semble-t-il. Hein,
ouais,
Fred.
Ouais, Thibaut Pinot est parti. Oui. Thibaut Pinot est parti.
Ce Tour de France, pour l'instant, est un véritable tour calvaire pour Thibaut Pinot, qui, on vous le rappelle, à l'issue de la première étape, était donné par nous tous comme vraiment l'un des, pas des favoris, mais des outsiders de ce Tour de France. Malheureusement, ça ne va pas. Depuis, avec des journées catastrophes pour Thibaut Pinot. Le dernier kilomètre et ça accélère en tête de peloton. On tente de placer les sprinters. Ce sont les coéquipiers de la formation Lotto Soudal qui ont pris la tête des opérations.
Fred. Marcel Sieberg, le géant allemand, qui tente en se retournant à gauche et à droite de trouver André Greipel, son sprinter. Greipel en quatrième position avec son maillot vert. Un coureur de l'équipe Cofidis va essayer de suppléer Nasser Bouhanni qui n'est plus dans le peloton. On le rappelle, il a abandonné sur chute. C'est Geoffrey Soupe qui va essayer de seconder Nasser Bouhanni. Marc Renshaw, le coéquipier de Marc Cavendish, emmène le peloton à 500 mètres de la ligne d'arrivée. John Degenkolb lance le sprint de très loin. Renshaw résiste. Alexander Christophe est troisième. Arnaud Démarre quatrième. André Greipel cinquième. Peter Sagan sixième. Edvald Boasson-Hagen est idéalement placé, ainsi que Marc Cavendish. C'est Alexander Christophe
Démarre en deuxième position, qui tente de faire l'intérieur, qui tente de gagner. Non, ça va être trop juste pour le Français.
Arnaud Démarre débordé par Alexander Christophe et André Greipel sur la gauche de la route. Greipel et son maillot vert qui vient sauter sur la ligne. Marc Cavendish, André Greipel, deuxième victoire après sa victoire à Zélande sur la deuxième étape. Le gorille de Rostock, l'Allemand, vient conforter son maillot vert et remporter là sa huitième étape sur le Tour de France. Greipel revenu de loin, qui a fait le grand tour par la gauche. Il a devancé Cavendish, il a devancé Christophe, Démarre et Boasson-Hagen. Peter Sagan remontait très vite, mais il est remonté seulement au plateau d'André Greipel. Sagan qui s'est très mal placé et qui en a payé le prix.
Greipel comme Sagan sont les deux coureurs qui viennent de derrière dans l'aspiration. N'oubliez pas qu'il y a 20 faces et donc dans les 50 derniers mètres, vous allez 10 à l'heure plus vite que les Cavendish, Demar qui étaient eux plein vent.
Le vent de face a fait la différence.
Au dernier moment,
oui, vent de face, pas l'oublier.
RMC Intégral Tour.
Cinquième étape du Tour de France, donc entre Arras et Amiens. Et donc la victoire tout à l'heure de Greipel, le gorille de Rostock qui signe là son deuxième succès sur les routes de ce Tour et qui s'affirme véritablement comme le patron, Cyril, comme le patron du sprint mondial aujourd'hui. Cavendish une nouvelle fois battu. Sagan qui est pas loin mais qui est derrière. Et Alexander Christophe qui n'a pas exactement la même forme qu'il avait en tout début de saison sur les grandes classiques. Greipel, sur ce Tour de France, c'est le sprinter number one. Il n'y a pas de mot à dire pour l'instant. Hein.
Pour l'instant, deux sprints, deux victoires, 100% de réussite. C'est difficile de faire mieux.
Alors, cette étape a été marquée également. On va y revenir évidemment sur les chutes à répétition, sur une route détrempée. Il a beaucoup plu aujourd'hui, plus le vent s'est mis de la partie. Et dès le kilomètre 11, l'annonce donc de l'abandon de Nasser Bouhanni, sur lequel on comptait énormément sur ce Tour de France pour aller décrocher des victoires au sprint. Nasser Bouhanni, victime d'une chute collective avec plusieurs de ses coéquipiers et qui donc est contraint à l'abandon. Thierry, c'est pas la première fois évidemment que Nasser tombe depuis quelques jours. On se souvient de sa chute dans le final des championnats de France il y a de cela un peu plus d'une semaine, une autre chute en début de Tour de France, et là c'était la chute de trop. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Et ça a été le cas pour Nasser Bouhanni qui quitte le Tour. Évidemment on est déçu parce que c'est sur lui que l'on comptait le plus.
On va essayer de t'aider. Ouais, on va essayer de t'aider.
Chute de Christophe.
Je vais essayer de revenir dans la route.
Il s'est pris un trottoir.
Donc on comptait énormément sur lui pour les victoires au sprint. Côté français, là, il faudra repasser.
Et oui, puis d'autant plus que on s'aperçoit, je vous ai écouté cet après-midi un tout petit peu. On se dit qu'il y a une poisse quand même pour cette équipe de Cofidis, hein, parce que franchement quand il a signé, franchement je me suis dit c'est pas forcément la bonne solution, parce que tous ceux qui ont signé là-bas, malheureusement on a l'impression que il y a un sort qui est jeté. Nasser, juste avant le tour, tombe au championnat et n'est pas sûr de prendre le départ. On avait l'impression hier que, après avoir passé les pavés et de belle façon quand même, on avait retrouvé le Nasser d'antan et que il pouvait éventuellement faire un sprint ou deux en fin de semaine. Et puis là, une grosse chute de nouveau, encore son côté qu'il avait
qui
il a été touché au championnat.
Oui, il a été touché et la douleur est telle qu'il était obligé de.
Il
y a la poisse sur nous là. En ce moment.
Non, ça va pas aller. Les coureurs français,
on est fatigué.
Les consultants, les commentateurs français, non, ça va pas. Tout va mal dans ce début de Tour de France pour les Français. Alors, Nasser Bouhanni, Lucho, toi en tant qu'ancien sprinter, c'est vrai qu'on comptait beaucoup sur lui.
Là, c'est vraiment grave là, ton cas.
Il en reste deux, il reste Coquard et Arnaud Démare qui font respectivement Démare 7e et Coquard 8e qui sont pas mécontents. On va écouter Brian Coquard s'exprimer justement à propos de ce sprint où il a pris la 8e place. Est-il satisfait de cette 8e place?
Là, on peut pas dire que j'ai sprinté, j'ai suivi le coureur devant moi et puis j'ai essayé de faire un effort, mais non, il manque d'être mieux placé tout simplement. Et je suis dans la roue à yo-yo et il me replace bien, mais bon, ça faisait déjà quelques temps qu'il était dans le vent et le temps que y a une vague qui arrivait de la gauche et voilà, je me suis retrouvé au milieu. Sorti de virage, je me suis dit bon, peut-être à droite, mais il fallait mieux aller à gauche.
Voilà, Brian Coquard, pas plus déçu que ça finalement, Cyril, il est 8e, il estime qu'il est à sa place, qu'il s'est pas peut-être bien placé. Bon, il avait un seul équipier pour le mener dans le final, enfin un ou deux.
Ils étaient trois avec Sicard, il y avait Yo-Yo, comme il dit, Gene, et il devait y avoir Gauthier peut-être, il y en avait un autre.
C'est pas grave. En tous les cas, il en faut combien d'ailleurs pour arriver à gagner.
Là, ce qu'il faut, dans la mesure où on n'assure pas le train en tête de peloton, il faut trois coureurs qui, un petit peu avant la borne, fassent l'effort pour venir vous replacer par les extérieurs.
Mm-hmm. Messieurs, je vais vous interrompre parce qu'on va partir tout de suite retrouver Pierre Ricten qui est aux côtés d'Yvon Sanquer, le manager de la formation Cofidis à l'hôtel de l'équipe Cofidis. Ce soir, on rappelle donc l'abandon de Nasser Bouhanni, leader de la formation Cofidis, celui sur lequel on comptait énormément pour décrocher des victoires au sprint. Et j'imagine qu'ils vont compter sur lui aussi. Bonsoir Yvon Sanquer.
Bonsoir.
Bon, Yvon, j'imagine beaucoup de déceptions ce soir. C'est un gros coup dur pour la formation Cofidis. C'était la carte maîtresse, la carte numéro 1, celui sur lequel vous comptiez beaucoup sur ce Tour de France. Et là, dès la 5e étape, le voilà dehors. C'est vrai que depuis quelques jours, pour Nasser, les ennuis se sont accumulés sur sa tête. Hein.
Oui, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour Nasser depuis une dizaine de jours. Bon, ça fait partie du sport, du cyclisme, les chutes, mais bon, c'est vrai qu'il est arrivé en grande condition à l'approche de ce tour, et bon, tout ça a été remis en cause par des chutes, des accidents, donc c'est difficile à surmonter. Maintenant, Nasser, c'est quelqu'un qui sait rebondir dans l'adversité, on parle déjà du futur, de la deuxième partie de la saison, et il y aura des objectifs à la hauteur de son talent, et on va faire le maximum pour qu'il y ait des belles victoires dans cette deuxième partie de saison.
Qu'est-ce qu'il a comme blessure exactement?
Alors Cyril.
Oui, qu'est-ce qu'il a eu comme blessure sur cette chute aujourd'hui?
Alors finalement, pas de fracture, mais c'est à nouveau, bien. Bon, c'est primordial pour la suite. Mais à nouveau un gros choc sur les côtes, donc avec des fortes contusions intercostales, avec une grosse douleur notamment au niveau de la respiration sur le choc, hein. C'est en grande partie ce qui l'a empêché de repartir, il avait le souffle coupé, et également un gros choc au niveau de la hanche qui venait superposer aux blessures qu'il avait déjà eues à ce niveau, donc ça a été essentiellement ces deux points-là qui l'ont vraiment handicapé et laissé sur place au moment où il fallait essayer de repartir. Bon, puis peut-être aussi un peu l'abattement après les coups du sang.
Ouais, non, c'est vrai. En plus, Yvon, que lorsqu'on est comme ça, victime de plusieurs chutes consécutives, au bout d'un moment, la tête doit dire non, ça va, c'est pas possible, c'est plus possible, quoi. Non, j'imagine dans le mental d'un coureur cycliste, même si on le sait, ce sont tous des guerriers, mais là, l'accumulation de gamelles, l'accumulation de douleurs, ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein.
Oui, après c'est aussi ce qui a joué, Cyril connaît bien ça, hein. Ça roulait quand même relativement vite, hein, 50-55, légère descente, ça s'arrête brutalement comme ça, deux gros chocs, bon, c'est difficile de retrouver ses esprits et de repartir. Et à côté de ça, bon, on voit un petit peu les perspectives de résultats qui s'envolent. Donc c'est certainement un mélange de tout ça qui a pesé. Mais il y avait vraiment aussi bon des blessures qui étaient sur le coup assez conséquentes.
Yvon, dernière question avant de vous laisser. Désormais, quel objectif pour Cofidis sans votre leader, celui sur lequel vous aviez bâti votre équipe en quelque sorte pour ce Tour de France?
Mais on va de toute façon chercher à rebondir. Je crois que vous verrez des Cofidis à l'avant malgré tout. Il y a des coureurs qui ont du talent. Même dans ce final aujourd'hui, on nous a dit souvent qu'il n'y avait pas une équipe très solide pour emmener Nasser. Chez les observateurs qui ont pu regarder, j'en doute pas, hein, Cyril a pu voir notamment Christophe Laporte emmener Geoffrey Soupe qui fait 11e finalement aujourd'hui. Et je crois que si on avait eu Nasser dans le final, je pense qu'il y aurait eu une très bonne performance à l'arrivée. Après, on a un coureur comme Julien Simon pour les arrivées en côte, notamment celle de Mur de Bretagne, où je crois que Julien a aussi une belle carte à jouer en se lâchant à 100% pour son compte. Donc, il va falloir...
Sans vouloir te couper, mais il y a aussi... Il y a l'étape de demain.
Oui, avec l'arrivée...
Aussi. Ouais. Aussi.
850 ça, ressemble à la, ça ressemble à la montée là-bas à Quimper.
Ouais, là, on c'est vrai, donc il y a de quoi faire. Cyril, merci, tu nous donnes des beaux objectifs.
merci Yvon Sancar d'être venu au micro de l'Intégral Tour ce soir, malgré la déception légitime après l'abandon de votre leader, donc Nasser Bouhanni, contre l'abandon après cette chute collective où plusieurs autres coureurs de la formation Cofidis ont été impliqués. C'est vrai qu'on sent l'abattement, mais effectivement le Tour de France n'est pas toujours linéaire. Une année ça marche, une année ça ne marche pas. Oui. En l'occurrence, pour l'équipe Cofidis, il y a eu souvent malheureusement des revers. C'est difficile
Rebondir.
Oui, ben on
rebondir avec leurs deux grimpeurs, les deux Espagnols, Maté, Navarro.
Donc moi je me ferai moins de soucis pour Cofidis que pour par exemple Europcar. Cofidis, ils ont les moyens de pouvoir faire des belles performances sur la suite du tour. Tandis que quand tu regardes l'équipe Europcar,
Roland en montagne, il a quand même montré par le passé qu'il savait remporter des grandes étapes de montagne.
Oui, mais il était présent au début de tour aussi.
Ouais, là, il galère. Là,
je ne sais pas s'il n'a pas abandonné l'idée de faire quelque chose au général. L'idée de faire quelque chose de bien au général pour se concentrer sur les étapes de montagne, comme il l'a fait les années précédentes. Il y a parfois.
Je l'espère.
C'est dommage de fonctionner comme ça en fin de compte.
Oui, mais bon.
Ah oui, en tout cas, c'est dommage.
Malheureusement, il faut se concentrer.
Quand on est grimpeur, on prend le départ du tour pour essayer de faire dans les... Ouais.
RMC Intégral Tour.
Nasser Bouhanni qui abandonne, et ça n'est pas fini. Il y a eu tellement de chutes dans ce début de Tour de France. Fabien Cancellara a abandonné aussi. Est-ce qu'il y a une malédiction du maillot jaune? Tony Martin aussi va chuter. Ça, on va en parler dans un instant. Et puis, je vous rappelle que, en ce jour de repos, ce premier jour de repos à Pau, on a appris l'abandon d'Ivan Basso. Il souffre d'un cancer des testicules et a décidé d'abandonner pour aller se faire opérer en Italie. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 16h45, l'Intégral Tour continue sur RMC Flashback. Jeudi dernier, le peloton arrive dans les rues du Havre. On est à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Et là, le maillot jaune à terre, Tony Martin chute. Il franchit la ligne d'arrivée avec plusieurs minutes de retard, le bras en écharpe, sans pouvoir s'appuyer sur son guidon. Alors va-t-il abandonner ou continuer? Suspense avec la Dream Team RMC Sport.
RMC Intégral Tour.
Dernier kilomètre de cette sixième étape du Tour de France. Nous sommes
chute.
Chute en tête de peloton.
Chute de Nibali oh, et chute de Nairo Quintana, me semble-t-il. On va en attendre confirmation. Mais on est Romain Bardet était attardé. Mais on est dans les trois derniers kilomètres. Donc réglementairement, lorsqu'il y a une chute comme ça, c'est Tony Martin qui a provoqué la chute.
À terre, hein.
Martin à terre, tout comme Bardet, tout comme Nibali et Quintana. Ils ne débourseront pas la moindre seconde parce que réglementairement, quand on chute dans les trois derniers kilomètres, on est crédité du même temps que le vainqueur de l'étape. On va quand même s'enquérir de l'état de santé de Tony Martin. Devant, ça fait la course avec un coureur de l'équipe Etix-Quickstep
qui est en tête. Tony Martin,
et Tony Martin qui reste au sol, assis, qui se touche la clavicule jaune. Pendant ce temps-là, un coureur de l'Etix-Quickstep de l'équipe belge de Kwiatkowski vient de prendre les devants.
C'est Stibar, je crois.
C'est Zdenek Stibar, effectivement. Le coureur
derrière,
belge.
Regarde. regarde les hommes qui sont derrière lui. Personne ne part derrière Stibar.
Et Stibar, ancien champion du monde de cyclocross, spécialiste des classiques flandriennes, qui a fait la différence dans cette côte. Et derrière, on s'observe Peter Sagan est marqué à la culotte. Alexander Kristoff, le Norvégien, fait rouler Joaquin Rodriguez pour revenir sur Stibar. Mais Stibar semble avoir fait le break. Il est à 400 mètres de la ligne maintenant sur le replat. Il n'a plus qu'à foncer dans un faux plat descendant derrière. C'est un petit groupe d'une dizaine d'unités qui compte en son sein Alexander Kristoff, Peter Sagan et John Degenkolb, ainsi
qu'Attaque de Coquart.
Brian Coquart est là également, mais c'est trop tard. C'est Zdeněk Stibar qui va s'imposer. Est-ce que tu confirmes? Oui, c'est bien lui. Zdeněk Stibar, l'ancien champion de République tchèque, qui devance le Slovaque Peter Sagan et John Degenkolb. Il me semble que Brian Coquart prend la quatrième place. Est-ce que Tony Martin va terminer? Est-ce qu'il va franchir la ligne et repartir demain matin? C'est la grande question.
C'est la grande question, puisqu'on vous le rappelle, une chute dans la montée de cette côte. Tony Martin qui s'est remis debout, qui est attendu évidemment par plusieurs de ses coéquipiers, dont le champion du monde Katowski. Il semble souffrir. Tout à l'heure, il se touchait la clavicule gauche.
Non, ça ne va pas le faire.
Ça va pas le faire.
Il ne repart pas et il a le bras en équerre. Tous les coureurs cyclistes, tous les pratiquants de cyclisme connaissent cette position. Quand on a une clavicule cassée, on ne peut pas tendre le bras, on ne peut pas lever le coude à hauteur d'épaule. Et Tony Martin n'est toujours pas remonté sur son vélo. Il est accompagné de certains équipiers, dont le champion du monde Michał Kwiatkowski. Il a 4 coureurs de l'équipe Etix Quickstep autour de lui. Tony Martin qui voudrait bien terminer, qui va terminer probablement,
mais qui ne peut pas poser la main gauche sur, sur son guidon, me semble-t-il.
Et il a encore la côte à terminer quand même. Il est maudit, Tony Martin. Il avait réussi à prendre le maillot jaune hier. Il avait eu beaucoup de mal à profiter de sa première journée en jaune, lui qui avait échoué à la place de Dauphin les deux étapes précédentes, derrière Cancellara notamment. Il avait remporté son étape à Cambrai et endossé le maillot jaune. Il n'avait pas profité du jaune hier sous la pluie.
Il
chute à 1 km de l'arrivée seulement. Il est poussé par 3 équipiers.
Il va finir, il va terminer cette étape.
On va revoir sans doute avec les images, mais je pense qu'il doit toucher la balustrade.
Il va
percuter je ne sais plus quel coureur à sa droite.
Nibali qui était juste à côté, me semble-t-il. Nibali qui va en terminer dans un instant. Alors on rappelle qu'il n'y aura pas de répercussions, sauf évidemment pour Tony Martin. Tous ceux qui vont terminer, leur retard ne sera pas pris en compte, Fred.
On
rappelle qu'il y a la règle des 3 km et que donc tous les coureurs qui sont passés dans le même temps aux 3 km vont être crédités du même temps sur la ligne d'arrivée. Nibali qui passe à l'instant même la ligne d'arrivée, alors que Tony Martin qui ne peut pas poser la main gauche sur son guidon est poussé, aidé par ses équipiers, dont le champion du monde Katowski. Il tenait à terminer cette étape. Tony Martin avec le maillot jaune, l'orgueil du maillot jaune. Mais demain, c'est sûr, c'est certain, Luc, il ne prendra pas le départ de la septième étape.
C'est la clavicule, c'est carrément cuit. On en aura les détails ce soir, mais je pense que là, franchement, là, en se tenant comme ça et en pliant le coude et sa main contre son torse, je crois que c'est terminé malheureusement pour Tony Martin.
Ouais, il était tellement heureux, à Cambrai d'endosser enfin, lui à 30 ans, qui a presque tout connu à son niveau dans le cyclisme. Il était tellement heureux d'endosser son premier maillot jaune.
Voilà, image terrible que celle de ce maillot jaune, Tony Martin, qui a vraiment le masque et qui va en terminer dans quelques instants, toujours encadré de ses hommes, dont Katowski et toute la formation Etix Quickstep. Tony Martin acclamé ici à l'arrivée dans les rues du Havre.
Voilà, les Allemands échouent en Normandie.
Les Allemands, oui, mais c'est triste de voir cette image de Tony Martin, un formidable coureur, formidable rouleur qui, à 30 ans, avait enfin obtenu le Graal, décroché ce maillot jaune. Il comptait bien l'amener au moins jusqu'à Plumelec, sinon jusqu'après la journée de repos. Eh bien, a priori, ça se complique pour Tony Martin, qui, on vous le rappelle, a donc franchi la ligne après plusieurs minutes de retard. Alors, son retard ne sera pas accumulé, mais c'est surtout son épaule qui inquiète évidemment, puisqu'il ne peut plus mettre la main sur son guidon. A priori, clavicule cassée pour Tony Martin. On rappelle la victoire de Stibar, le tchèque de la formation Etix Quickstep, qui s'impose devant Peter Sagan et Brian Coquart, qui termine troisième de cette étape. John Degenkolb est quatrième, Tony Galepin sixième. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire pour cette étape qui aura été à un rythme plutôt lent.
RMC Intégral Tour.
sixième étape donc de ce Tour de France qui s'est achevée tout à l'heure, juste avant 18h ici au Havre, après une étape plutôt tranquille, mais une étape qui s'est bien accélérée dans le dernier kilomètre avec, on vous le rappelle, la chute de Tony Martin. Tony Martin, le maillot jaune de ce Tour de France, qui était à la bagarre pour éviter de prendre des cassures, pour éviter de perdre du temps sur ses rivaux au classement général, et qui malheureusement a chuté. On va en parler avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Voilà, Luc Leblanc va nous rejoindre, mais Luc Leblanc est dans tous états.
Oui,
ses états parce que sa fille vient de réussir le bac, et là, c'est quand même la première fois dans la famille. Ouais. Quoi. Non.
Oh, putain. Et on peut pas, moi j'ai été meilleur apprenti cuisinier de France, j'ai choisi ma voie, j'ai réussi quand même.
Mais t'as
pas eu ton bac. C'est, pour réussir dans la vie, on n'est pas forcément obligé d'avoir le bac.
Et ben, en tous les cas, c'est bien. On l'a fait.
Tu as des artisans et tout ça, des bouchers, tout ça, qui ont eu leur CAP, qui ont fait une très belle carrière.
Pourquoi elle a passé son bac alors?
Comment?
Bon.
Oui, mais j'ai pas dit que ça servait
okay,
à rien.
Ok, très bien, bravo.
Pas grand chose.
Merci Christophe, merci à tous, c'est gentil. Merci, on boira le champagne tout à l'heure.
Dans une famille, c'est très bien.
T'envoies une bouteille, l'autre chose.
En plus, ton fils l'avait déjà eu.
Mais oui, mais Alexis, il passe en deuxième année d'école de commerce et tout.
Quelle famille de génies. C'est incroyable comme on peut faire des génies alors que, bon, au départ.
Dans génie, il y a gêne.
Arrête, parce que tu vois, je suis debout, je vais t'en mettre une. C'est moi qui vais faire l'émission.
L'autre chose, il y a déjà un maillot jaune par terre, c'est bon.
Voilà. Un maillot jaune par terre, effectivement, Thierry, tu le disais il y a quelques instants. Alors, Fred est avec nous. Fred qui a regardé, qui a visionné image par image ce qui s'est passé dans cette chute. Évidemment, dans le direct, c'était pas évident de voir ce qui s'était passé. Fred, alors, que s'est-il passé dans cette chute et que sait-on de l'état de Tony Martin?
Alors, on était dans la dernière côte de la journée, pas répertorié au classement de la montagne, mais qui pourtant était censé faire la différence à l'approche de ce sprint ici au Havre, à 800 mètres de la ligne d'arrivée, dans la petite montée ici sur les hauteurs du Havre. Tony Martin, qui était aux alentours de la 10e position dans ce peloton sur la gauche, l'extrême gauche de la route, a touché avec sa roue avant, a touché la roue arrière de Brian Coquard, qui se préparait à aller jouer la victoire sur cette sixième étape. Il a touché la roue et donc a été déporté. Il a fait un écart et il a emmené sur sa droite, il est venu s'affaler, s'écrouler sur Warren Barguil, le breton de l'équipe Giant Alpecin. Et là, c'est l'effet domino. Martin qui touche Barguil, qui tombe sur Nibali, qui tombe et qui manque de faire tomber Christopher Froome, qui est obligé de déchausser alors qu'on est dans la montée. Derrière, c'est venu s'empiler. On a vu Nairo Quintana à terre, un coureur de l'équipe BMC. Il me semble que c'est l'Italien Quinziato. Voilà comment ça s'est passé. Bilan. Clavicule fracturée pour le maillot jaune.
Ouais, c'est confirmé à l'instant même par la formation Ectix Quickstep. Déjà, Tony Martin l'avait annoncé il y a quelques instants par un tweet. Merci beaucoup, Fred, pour toutes ces informations qui arrivent en direct. Hein, puisqu'on vous le disait, la formation Quickstep vient de communiquer là-dessus. Clavicule cassée, même si Tony Martin n'a pas officiellement abandonné.
Mais non, je ne vois pas très bien comment on peut continuer avec une fracture de la clavicule, même si elle est sans déplacement. Enfin, les images que nous avons vues quand même de Tony Martin après sa chute, remonté sur le vélo, à aucun moment il n'a bougé son bras. À aucun moment il a même esquissé la possibilité de mettre sa main sur son guidon, et qu'il n'a réussi à rallier la ligne d'arrivée que poussé par 4 équipiers. Alors je vois pas très bien comment demain il pourrait faire 190 km de course entre Livaro et Fougères. Le seul qui a réussi cet exploit, il a gagné le Tour d'Italie. C'est le menteur espagnol, comment on l'appelle déjà, Contador, qui nous explique qu'il a une luxation de la clavicule quand il sort de l'hôpital. Et le lendemain, il pilotait le vélo. Or, avec une luxation de la clavicule, vous ne repartez pas non plus le lendemain. Donc, moi, je ne crois pas au fait qu'il puisse repartir demain avec une... En plus, ça ne serait pas prudent, ça ne serait pas sérieux.
Bien sûr. Bien sûr. Thierry, tu confirmes une clavicule en moins, c'est pas possible. Hein, pour,
oui, ben, déjà,
de toute façon, ça ne servira à rien.
La fracture, il y a l'énergie qui part pour réparer ça. Et puis, si on veut vraiment réparer, il faut bloquer. Donc, je vois le maillot jaune repartir.
Cyril, si Tony Martin abandonne ce soir, est-ce que Chris Froome partira avec le maillot jaune demain matin? On sait que Martin a franchi la ligne d'arrivée avec le maillot jaune. Il s'est fait remettre le maillot jaune. D'ailleurs, image assez difficile à vivre parce qu'il est monté. Il avait vraiment la tristesse dans les yeux. Il est allé faire le métier. Il est allé se voir remettre son maillot, à serrer la main droite qui n'est pas blessée à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on lisait la tristesse sur son visage.
Très, très pâle.
Oui. Une fracture de clavicule, ça fait mal, hein, évidemment. Donc, Chris Froome peut-être en jaune demain. C'est pour...
Logiquement, oui. On a vu par le passé, dans le cas, effectivement, d'abandon du maillot jaune, le nouveau maillot jaune ne pas porter par respect à celui qui l'avait perdu sur chute, ne pas le prendre. Alors c'était arrivé donc en 72 lorsque Luis Ocaña avait chuté dans la descente du Col de Monte, et donc Merckx, qui se retrouvait maillot, avait dit bon. Alors donc ça, ce sont des choses qui sont déjà arrivées, mais là dans le cas présent, logiquement, sauf accord avec l'organisation, enfin les commissaires et l'organisation, il pourrait ne pas partir avec. Mais logiquement, il part avec le maillot jaune.
Très bien. Notre excellent confrère Philippe Castel de France 3 nous rappelle qu'il y a 2 ans, Jean-Christophe Perrault s'était fracturé la clavicule et qu'il avait, rappelez-vous, tenté de disputer le contre-la-montre qui était en descente. Il avait rechuté dans la descente et là, il avait abandonné, mais le matin, il avait tenté de s'échauffer, mais finalement, ça ne l'avait pas fait. Merci Philippe pour cette information, de nous rappeler ça.
RMC Intégral Tour.
Tony Martin abandonne, pas de maillot jaune vendredi dernier. Chris Froome préfère la jouer grand seigneur pendant que son compatriote Mark Cavendish s'apprête enfin à gagner. On voit ça jusqu'à 18h. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.